Donc, un temps de questions. Les questions ont été récoltées, ont été mises sur papier, mais bon, je ne vais pas être restrictif. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser oralement, mais je vais d'abord commencer par le papier. Donc, ici, une réflexion, tes pensées sur le corps, sur un corps spirituel. Ben, il n'y a pas, j'ai pas de réponse vraiment toute faite. Il y a un passage en 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 35. Je vais peut-être vous lire le passage, si vous voulez bien. Comme il n'y a pas eu vraiment de lecture assez longue de la parole, je vais lire ce passage de verset 35 à 49. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Paul pose la question, avec quel corps? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque chose, de quelque autre semence. On ne peut pas dire que Paul soit très clair dans ce qu'il dit. Moi, je ne comprends pas très bien. Mais bon. Mais bon, enfin, ce qui est important, c'est la suite. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. C'est vrai qu'on se ressemble, on est tous, enfin, on est bien tous différents les uns des autres. Mais il dit ça, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du ciel, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles, mais une même étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Donc là, c'est là qu'il dit corps spirituel, mais là de nouveau, mais qu'est-ce que ça veut dire corps spirituel? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça c'est Christ, il est devenu un être vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc on a ici un corps terrestre et nous porterons l'image du céleste. Mais là, on ne peut pas savoir, c'est à part faire travailler notre imagination, mais ça dépasse notre entendement et notre petit cerveau. Ce sera beaucoup mieux que ce que nous savons ici en tout cas. Parce qu'ici, on sait bien qu'on est limité. On a tous nos problèmes physiques, on est limité, tandis que là, on sera plus limité. Alors, est-ce que vous me reconnaîtrez au ciel? Ah, Pierre, par mon apparence physique, mais je pense qu'on se reconnaîtra. Ah, moi, j'ai l'impression qu'on se reconnaîtra. Mais Jésus est apparu à ses disciples, et c'est vrai que ça, on dirait que son corps changeait un peu de forme, il n'avait pas tout le temps la même apparence, soit il avait tout le temps la même, et les disciples n'ont pas reconnu parce qu'ils étaient tellement, à côté de la plaque, ou alors il avait par moments une morphologie qui était un peu différente d'un moment à l'autre, j'en sais rien. En tout cas, il avait un corps qui pouvait traverser les murs, mais vous allez me dire qu'il mangeait, il a mangé avec ses disciples. Mais pour moi, à ce moment-là, le Christ a son corps spirituel, ça n'a plus un corps charnel. Là, ça peut faire débat, mais s'il est ressuscité, c'est avec un corps spirituel. Bon, ça, c'est peut-être que je m'avance, hein, mais bon. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur ça. Ah oui, j'avais une réflexion sur votre expérience avec les enfants en fin de vie, difficultés, bonne expérience. Là, c'est vrai que j'ai jamais parlé des enfants, j'ai pas d'expérience dans le domaine. J'ai dit que là, j'aurais vraiment une difficulté d'accompagner des enfants en fin de vie. Là, je ferai de la projection. Parce que je crois que j'identifierais mes filles avec un enfant, mais aussi avec les familles. Je crois que ça a été tellement difficile parfois pour les parents que moi, j'admire le personnel qui travaille en oncologie pédiatrique parce que c'est un gros, gros travail. Chapeau. Mais comme je pense, là je ne veux pas idéaliser, mais il y a des enfants qui donnent une leçon de vie incroyable, hein, et qui sont beaucoup plus au clair que nous en tant qu'adultes à propos de la mort, hein, beaucoup plus au clair, et qui même à la limite poussent l'adulte dans ses retranchements, dans leurs questionnements, et ils n'ont pas peur. Hein. Alors, c'est vrai qu'en Belgique, il existe l'euthanasie pour les mineurs. Elle est légalisée en Belgique, mais là, j'ai pas beaucoup de non plus de connaissances. Ça interpelle là de nouveau parce que c'est assez récent. Oui, c'est depuis, je crois, 2 ans maintenant, même pas. Mais c'est interpellant dans le sens que le mineur qui demande l'euthanasie, il faut que les parents soient aussi d'accord qu'il soit euthanasié. Alors, vous imaginez les parents divorcés qui sont pas d'accord entre eux. Moi, je peux pas imaginer ces situations-là. Moi, je trouve que je l'ai pas dit, mais l'euthanasie a été légiférée en Belgique parce que il y avait certainement des pratiques à l'hôpital où il y avait des patients qui demandaient qu'on accélère leur fin de vie et qui étaient très vite accélérés. Et mais seulement ils prenaient le risque, le médecin, d'être poursuivi pénalement par des familles qui auraient pu très bien se retourner contre eux. Donc, ils ont voulu légiférer, mais ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, ils ont ouvert un peu la boîte de Pandore, parce que ce que je constate quand même, c'est qu'il y a deux choses, c'est qu'il y a un risque de dérive. Il y a un risque de dérive et aussi de banalisation. Ça, je ne l'ai pas dit, mais moi, ça me fait froid dans le dos, hein, que le personnel recevra une demande d'euthanasie comme ça, mais on sera un peu ni chaud ni froid, quoi. C'est comme ça. Et, enfin, voilà, ça, c'est mon sentiment personnel. Hein. Oui, qu'en est-il de l'opposé d'euthanasie, la recherche de l'immortalité par la chronologie, comme on le voit dans le mouvement transhumaniste? Très bonne réflexion, et je pense que c'est dans l'air du temps, et que l'être humain, dans son désir de pouvoir absolu, va vouloir, à mon avis, maîtriser justement la génétique. Et la génétique, ce sera ce projet, à mon avis, ce rêve un peu fou de l'être humain de trouver les codes qui permettent l'immortalité. Je crois que le jour où on y arrivera, peut-être que la fin du monde aura lieu, que Christ reviendra. Je le souhaite, parce que je ne peux pas imaginer avoir l'immortalité ici sur cette terre. Moi, je ne peux pas l'imaginer. Hein. Je ne peux pas l'imaginer. Mais c'est le rêve de l'homme. Hein. C'est le rêve de l'homme. Et on va y aller. On va pas le connaître, nous, mais on va vouloir. C'est fou. Déjà, quand on voit la technologie, comment elle se développe, il y a encore des choses qui vont nous surprendre. Hein. On ne va pas arrêter d'être surpris. Hein. Ouais, ça me fait poser beaucoup de questions. On accepte ça comme si c'était bien, l'évolution de la technologie. Plus personne pour conduire, c'est bien, mais oui. Mais voilà, la technologie, c'est vrai. On peut pas. Je crois qu'on va pas pouvoir arrêter le progrès. Hein. Ça fera partie de la chose. Mais par contre, peut-être au niveau de la génétique, si il y aura moyen de réparer un organe malade, ben, je dis à la limite, eh ben, pourquoi pas. Je vais pas non plus tomber dans l'autre extrême pour dire oui, je suis contre la technologie. Mais s'il y a moyen de, si quelqu'un a une cirrhose du foie et qu'il y a moyen d'aller faire des greffes de cellules souches au niveau de son foie et qu'il puisse régénérer son foie et avoir un foie sain, ben, ça, je crois que ça, la technologie, c'est comme s'il y a, 60 ans d'ici avec, même plus, on le dit, oh non, moi, je suis contre l'antibiotique, hein, alors que c'est une révolution quand même qui a permis de guérir pas mal de maladies. Enfin, mais en tout cas, les gènes, la génétique de l'immortalité, moi, ça me laisse un peu songeur. Oui, j'essaie de répondre à ce cheminement-là, hein, comme quand on a quelqu'un qui peut peut-être se poser une question avec l'assistance au suicide, mais comment être? Je pense que j'ai essayé de répondre à cette question-là. Oui, ça aussi, il faut avoir de la patience, prier aussi. Il y a aussi des questions ici que j'ai, mais qui dépassent un peu, je dirais, mon niveau. Je ne pourrais pas répondre. Donc je vais un peu réfléchir là-dessus et peut-être voir avec le frère qui pose des questions pour demain, mais maintenant je ne saurais pas répondre à toutes ces questions-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez, vous, d'autres questions, d'autres réflexions.
Mais je serais peut-être pas intervenu par l'acharnement médical.
Oui, pas d'acharnement.
Jusqu'à quel point on peut être sûr que nous ne modifions pas la volonté de Dieu, vu, disons, les techniques mises en place maintenant, etc. Comment on peut définir le fait qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, le fait d'arrêter ou de ne pas arrêter les soins qu'on doit donner normalement à un patient?
Oui, chaque situation pour moi est unique et c'est une bonne question. Je crois qu'il faut être prudent, ne pas aller peut-être trop vite dans un jugement ou quoi. Je crois qu'il faut discerner chaque situation. Mais je pense qu'il y a des traitements. On voit ce qui s'est passé quand même dans l'histoire de la médecine, c'est qu'il y a eu pas mal d'acharnement thérapeutique. Et je crois qu'il y a eu un mouvement qui a été à contresens pour dire non, ben, ça suffit. C'est vrai. Et là, moi, je peux quand même reconnaître quand même la volonté de la personne. Si elle ne désire pas d'avoir de chimiothérapie, ça lui appartient. Mais il faut qu'elle soit bien informée. Je crois que la personne est capable de prendre des décisions, mais il faut qu'elle soit vraiment bien informée des inconvénients et des conséquences de ce qu'il fait en s'abstenant d'un traitement. Mais c'est vrai que je pose la question pour un chrétien. Si j'ai un cancer, je ne sais pas moi, du pancréas, et je sais d'emblée qu'il n'y a pas de traitement curatif pour le cancer du pancréas si j'ai des métastases, je me poserai sérieusement la question, est-ce que je vais accepter la chimiothérapie que le médecin me propose? Je n'ai pas la réponse maintenant, parce que je ne peux pas dire comment je serais si je l'avais. Mais moi, ça me fait réfléchir. Je ne sais pas si j'aurais envie d'avoir nécessairement une chimiothérapie qui va que faire que retarder peut-être un peu l'évolution de la maladie, gagner peut-être 3 mois, mais là, de nouveau, se pose la question, et ces 3 mois-là, est-ce qu'ils valent la peine? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. De nouveau, peut-être que vous allez me dire, ça rejoint ce que j'ai dit tantôt, ces 3 mois, où je peux être encore avec ma famille, où c'est encore donné recevoir. Je crois qu'en tant que chrétien, on ne doit pas vivre par tout moyen possible. Je crois qu'à un moment donné, quand la médecine a ses limites, je crois qu'il faut accepter les limites de la médecine. Et je crois que, je crois qu'on a ce droit quand même de dire là maintenant non, je ne préfère pas. Et ça peut être, je crois que ça doit être respecté. Mais il y a des chimiothérapies palliatives, hein. Et franchement, moi je vois maintenant non, parce que je suis en soins palliatifs, je suis plutôt vraiment en toute fin de vie, mais je travaille pas en oncologie. Mais en oncologie, on voit où ils font des chimiothérapies et ils savent bien que ça ne sert à rien, mais le patient aussi le demande, et s'il arrête, ben, je crois que ça lui appartient qu'il puisse dire, ben voilà, c'est terminé. Alors c'est vrai que ça pose la question, est-ce la volonté de Dieu ou pas? Ça, c'est, je crois que c'est vraiment un cas de conscience qui doit être personnel à chacun. Moi, je pense pas qu'il va falloir ici dans une situation comme ça pour dire, ben voilà, c'est comme ça, donc il faut que toute l'assemblée pense dans cette optique-là. Je crois vraiment que c'est au cas par cas et essayer de comprendre la situation.
Oui. Un peu l'avocat du diable, mais dans un autre sens, on dit aussi qu'il y a 200 ans en arrière, il y a des personnes qui maintenant, je ne sais pas, ont vécu jusqu'à 80 ans ou tout ça, qui seraient morts déjà bien avant.
Tout à fait.
Donc, est-ce qu'avec la médecine, est-ce qu'on force pas justement, je dirais un peu, la main à Dieu? Alors que peut-être, Dieu a toujours le moyen de... Mais une personne qui aurait pu décéder déjà il y a X années, en la prolongeant par des chimios, des traitements et choses, voilà. Donc on a un peu deux balances d'un côté, parce qu'on dit, alors, dès qu'on propose une euthanasie, j'aime beaucoup plus ce mot, mais l'assistance, le suicide et tout ça, est-ce qu'on dit, non, est-ce que l'homme, disons, déjà, elle n'a pas déjà prolongé par rapport à la volonté de Dieu?
Oui. Non, mais t'as raison. Je crois l'évolution a été telle ces 50 dernières années qu'on s'est créé, je pense, des soucis, des questionnements éthiques qui n'existaient pas et il y a 60-70 ans ici. Ça c'est clair, mais il faut vivre, je pense, avec son temps. On peut pas dire que c'est pas parce que c'était plus facile autrement peut-être. Mais dans certaines contrées du monde, il y a, je dirais, une plus grande fatalité par rapport à cette notion de mort et que c'est naturel, c'est normal et qu'il ne faut pas interférer. Voilà. Mais les traitements sont là. Et je crois que ça doit être vraiment au cas par cas et on a créé une souffrance, oui. Il y a eu une époque avec les personnes qui étaient dans le coma. Ben, c'est vrai que c'était comme une grande souffrance. C'était des personnes qui étaient décédées cérébralement, mais qu'on maintenait en vie artificiellement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, du temps de Jésus, évidemment, qui n'avait pas lieu d'être, qui n'existait pas.
Disons, une question qu'on pourrait se poser dans nos milieux modernes, la technologie.
Ah oui, voilà, ça veut dire qu'on se crée beaucoup de problèmes. C'est l'homme postmoderne. Oui, une chose que je n'ai pas dite à propos des cultures... avec les fins de vie, c'est par exemple les musulmans, ils n'aiment pas quand on interfère avec la fin de vie dans le sens que d'accélérer la fin de vie. Ça, ils n'aiment pas du tout. Et là, ils le font. Et je trouve qu'ils ont quelque part raison. Mais évidemment, il y a la manière de nouveau. Mais je trouve qu'en tant que principe, qu'on n'a pas interféré, je dirais, je trouve qu'il y a quelque chose, je pense, qui est pour moi positif, parce que je crois que, mais de nouveau, pourquoi on le fait? C'est voilà, pourquoi est-ce qu'on interfère, pourquoi est-ce qu'on accélère? Mais en tout cas, dans cette culture-là, ben non, c'est Allah qui a décidé, et c'est l'heure qui est déterminée, on n'interfère pas avec ça, quoi.
Encore une question. Lorsque un de nos proches est en fin de vie, il arrive un moment où ils ne sont quasiment plus conscients. La décision nous incombe de dire oui ou non, vous arrêtez les soins, vous ne nourrissez plus, vous lui donnez plus à boire, ou bien vous le mettez à la morphine. C'est à nous qui nous pose cette
question. Oui, mais j'en ai un peu parlé tantôt. Moi, je trouve que c'est un peu embarrassant que ce soit la famille qui ait ce poids de la responsabilité du choix. Parce que je trouve que... Je crois qu'avec les fins de vie, il faut essayer d'anticiper. De savoir aussi ce que la personne qui était en vie avant d'être malade, c'est qu'elle voulait. Est-ce qu'elle aurait voulu qu'on s'acharne encore à l'alimenter, tout ça? Quelle est aussi sa volonté? D'où l'intérêt des déclarations anticipées de fin de vie. Je crois que c'est intéressant. Donc là, tu parlais tantôt de communiquer, de parler. Ben, je crois que c'est bien d'en parler, de voir ce que vous voudriez. Et là, je trouve que c'est positif parce que voilà, c'est oui. J'espère que je file de ma...
Non, c'est bien. C'est...
Donc oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui.
Pour ne pas mettre nos enfants devant cette situation. Nous-mêmes, nous devrions régler quelque chose comme un testament de fin de vie.
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est l'idéal de clarifier ce que vous voudriez. Parce que très souvent, on ne sait pas ce que la personne aurait souhaité. Parce que on essaie quand même... J'ai parlé du concept de l'autonomie, mais je pense que ça fait partie quand même de la personne de pouvoir décider quand même si qu'il aurait envie, s'il voudrait qu'on lui mette une sonde gastrique et tout ça. Parce que mettre une sonde gastrique, c'est pas anodin. Hein. Dire, oh oui, facile, mettre une sonde gastrique, ça veut dire que c'est un inconfort, c'est pas du tout confortable, il risque d'avoir des bronchoinhalations, et en plus, si la personne est un petit peu agitée en fin de vie, il faut lui attacher les mains pour qu'il n'arrache pas la sonde. Alors là, moi, là, je trouve plus ça, je dirais, dans la dimension humaine, je trouve ça très humain. Je trouve que c'est vraiment, alors là, vouloir faire des soins pour des soins, en perdant sa dimension humaine. Mais je trouve que c'est pas la famille qui devrait décider. Je crois que c'est donc le patient qui devrait clarifier et le médecin qui devrait parler avec la famille, de voir ce qu'il pense, la famille pense, mais qu'en dernier recours, que ce soit le médecin, avec consultation de l'équipe, de dire voilà, ici, je crois que la famille doit être consultée. Mais c'est pas la famille à décider. Parce que si la famille décide et qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a pas fait peut-être le bon choix, ben, bonjour la culpabilité.
C'est un dernier ressort, ce ne serait pas normalement le médecin que lui, sa professeur, il peut dire cette personne, il n'y a plus rien à faire. Et à ce moment-là, il y a plus de questions qui se posent.
Oui.
On est dans l'armée, parce que quand il n'y avait pas forcément de médecins et de grandes techniques comme maintenant, les gens allaient mourir tranquillement. Et c'est de cette mort que je parle maintenant, sans forcément mettre la famille ou les personnes devant cette
en difficulté.
Juste dire, vraiment, avec le franchise, le médecin, il va dire, il n'y a plus rien à faire. Donc, s'il n'y a plus rien à faire, il ne faut pas nous mettre devant un choix de dire s'il faut la liberté ou pas.
Oui. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand il n'y a plus rien à faire, moi j'ai envie de dire qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais pas dans le sens peut-être comme on l'entend. Mais donner des soins de confort, donner des soins d'attention pour la personne, il y a toujours moyen. Parce que plus rien à faire, ça me fait un peu peur, parce que là on abandonne. Mais c'est pas ça, hein. Ne rien faire, c'est pas abandonner. Donc, c'est pour moi, là, la place des soins palliatifs, elle est très importante. Parce qu'on est dans l'accompagnement de la personne. Mais c'est vrai que, je dirais pas que les soins palliatifs ont la réponse à tout et qu'on fait tout bien. Donc, parfois aussi, il peut aussi avoir, à un moment donné, des réajustements. Parce que je crois qu'on se fait un peu une conception. Chacun se fait une conception de son rôle, de ce qu'il a à faire. Et parfois, on peut se tromper. J'ai parlé de la sœur tantôt. Moi, je crois que c'était bien qu'elle reste pas trop longtemps au fauteuil, alors qu'elle avait envie de rester. Donc, il faut voir toujours qu'est-ce que la personne veut. Ouais, ici, tu vas me dire que j'avais pas moyen de le savoir, donc il faut anticiper. Oui? Il n'y avait pas d'autre chose? Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont persévéré. Un grand merci.